De retour à l'émission de littérature sur Radio Campus Orléans, avec en direct par téléphone Jean-Hubert Gaillot, éditeur aux éditions Tristram, pour parler de l'événement de la rentrée du mois de septembre, c'est le livre des violences de William T. Volman. Bonsoir Jean-Hubert Gaillot. Alors ma première question, à brûle pour point comme ça, comment s'est effectuée cette version abrégée? Quel a été le choix et quelle différence avec la version complète? Qu'est-ce qui manque en fait?
Bah écoutez, Volman, pour nous chez Tristram, c'est une longue histoire. On le suivait depuis ses débuts, c'est-à-dire à la fin des années 1980, qui correspondait d'ailleurs au début des activités de notre maison d'édition. On avait hésité à commencer à le traduire en France dès cette époque-là et on avait finalement provisoirement reculé devant la prévisible énormité de l'œuvre, puisque Volman est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui publie beaucoup et qui publie généralement de très très gros livres. On s'est donc tenu comme ça pendant un certain nombre d'années en embuscade, attendant le moment où Volman publierait un livre aux États-Unis qui nous paraîtrait constituer un univers complet à lui tout seul. Ça a été le cas au début des années 2000, lorsqu'il a commencé à annoncer donc ce fameux livre des violences auquel il travaillait depuis qu'il était tout jeune homme, c'est-à-dire à peu près depuis une vingtaine d'années, et avant même la parution du livre aux États-Unis, on en a acquis les droits pour une traduction française. On a donc acquis les droits de la totalité du dossier du livre des violences, qui dans sa première incarnation éditoriale en 2003 chez l'éditeur californien Max Winney à San Francisco, représente 7 volumes reliés sous coffret. Ça paraît très impressionnant dit comme ça. En réalité, à l'intérieur de ces 7 volumes totalisant environ 3500 pages, il y a énormément de photographies, énormément de documents, il y a énormément d'annexes. Donc on peut considérer que la partie de texte à proprement parler de William Volman représente un peu plus de la moitié, c'est-à-dire environ 2000 pages sur les 3500 pages. On a hésité quelque temps à publier en français la totalité de cette œuvre et on a finalement décidé dans un premier temps de publier ce qui est paru un an plus tard aux États-Unis, la version donc dite abrégée qui fait tout de même un millier de pages, hein, c'est-à-dire à peu près la moitié du texte complet, édition qui quant à elle est parue à New York aux éditions HarperCollins. Le choix des Américains, qui est d'ailleurs le choix de William Volman, nous l'avons entièrement conservé pour cette édition française, nous réservant pour les années à venir la possibilité de publier des volumes additionnels, des sortes de livres satellites qui seront moins considérables que ce premier tome et qui regrouperont les enquêtes de terrain de la deuxième partie du livre des violences selon des unités géographiques, c'est-à-dire un volume sur l'Asie du Sud-Est, un volume sur l'Europe, un volume sur l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, un volume sur le monde musulman et l'Afrique. Puisque ce qu'on peut peut-être expliquer à nos auditeurs, c'est que le livre des violences, qui est donc, comme son nom l'indique, une exploration et une réflexion sur la violence, sur toutes les formes de violence, non seulement à travers l'histoire, mais également à travers un certain nombre de régions actuellement à feu et à sang. Donc c'est à la fois une enquête historique, dont la dimension philosophique, anthropologique est également très, très importante, et puis une enquête géographique dans le monde contemporain, là où la violence est à l'œuvre, toutes les formes de violence, aussi bien des guerres civiles que la violence d'État, que des formes de violence parfois moins étudiées, comme la violence faite aux animaux, comme la violence entre les sexes, comme la violence qu'on retourne contre soi-même. C'est toujours l'occasion de rappeler que l'un des principaux, les principales causes d'insécurité dans nos sociétés très développées reste le suicide. Évidemment, une forme de violence que William Volman examine parmi d'autres. Il y accorde moins de place que la violence des États totalitaires au XXe siècle, moins de place qu'à l'étude, par exemple, des conquêtes napoléoniennes de Jules César ou d'Alexandre le Grand. Mais voilà, dans son entreprise consistant à passer en revue, à essayer de comprendre, à essayer de connecter la violence sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, rien n'est laissé de côté par Volman.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière de travailler de Volman? Parce que c'est un travail très long, vous avez dit que ça a nécessité 20 ans, ça a nécessité également de nombreux voyages.
Oui, bah écoutez, Volman a effectivement une manière bien à lui et en même temps très radical de travailler. Il accepte généralement les commandes, et ceci depuis qu'il y a une vingtaine d'années, hein, donc depuis la fin des années 80, des quotidiens ou des news magazines américains, donc ça peut être le New York Times, ça peut être Newsweek, ça peut être d'autres types de médias, qui connaissant son talent d'enquêteur, connaissant sa capacité à se rendre très proche des gens qu'il rencontre, hein, dans ces pays très, très troublés, lui ont, à travers le temps, confié pas mal de reportages, que ce soit en Birmanie, que ce soit au Cambodge, que ce soit au Rwanda, que ce soit dans l'ex-Yougoslavie, que ce soit dans les zones de l'extrême nord des États-Unis, mais ça peut aussi être en Somalie, ça peut être à la Jamaïque, enfin la liste est très, extrêmement longue, extrêmement impressionnante, puisque Volman a dû effectuer comme ça 40 ou 50 missions à l'étranger en 25 ans. Là où il va très au-delà d'un travail habituel de journaliste ou de reporter, c'est qu'au lieu de consacrer le budget qui lui est alloué pour un séjour de quelques jours dans la région concernée, il y passe en réalité plusieurs semaines, vivant le plus modestement possible de manière à pouvoir faire durer plus longtemps le budget qui lui a été imparti, ce qui lui permet de réellement vivre avec les populations les plus déshéritées, les populations les plus victimes des violences en cours, ce qui lui permet d'avoir une relation qui rapidement devient personnelle et plus simplement d'un enquêteur un peu abstrait et désincarné. C'est ce qui lui permet aussi de retourner dans les pays, c'est ce qui lui permet d'en suivre l'évolution. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui s'immerge dans les conflits qu'il examine, qui prend de considérables risques personnels et qui par ailleurs, et je crois que ça méritait d'être signalé, et par conséquent quelqu'un qui finance lui-même matériellement ses enquêtes. Ce ne sont pas des enquêtes qu'il mène aux frais des éditeurs avec des avaloirs pharaoniques, tout au contraire, il utilise jusqu'au dernier sou ses honoraires de journaliste pour aller très très au-delà des commandes qui lui sont proposées.
Vous avez dit qu'il mettait presque en danger des fois sa vie, enfin ça a été dangereux à un moment donné, il se met sérieusement en danger, c'est ce qu'il écrit?
Oui, alors sur la question du danger, si je comprends bien votre question, il est évident que en ne se contentant pas comme d'autres de ses confrères de vivre dans des chambres d'hôtel 4 étoiles constamment avec le gilet pare-balles et des patrouilles de sécurité aux abords de l'hôtel, mais au contraire s'immergeant dans les endroits où il y a les tirs de roquettes, où il y a les attaques à l'arme blanche, où il y a des explosions de toutes sortes, effectivement il met sa vie en danger. Pour ne prendre que l'exemple des séjours qu'il a fait dans l'ex-Yougoslavie dans le courant des années 90, il était avec les étudiants bosniaques sur un campus d'université qui était l'objet de bombardements incessants. Il était d'ailleurs tellement gêné d'être le seul à avoir un gilet pare-balles lors des nuits qu'il passait avec eux dans cet endroit extrêmement dangereux qu'il avait fini par préférer prendre le risque de passer toutes ses journées, toutes ses nuits sans gilet pare-balles plutôt que d'éprouver une telle culpabilité à être mieux protégé que les autres. Un autre exemple lors d'un de ses séjours en ex-Yougoslavie, je ne sais plus si c'était dans la zone croate ou dans la zone serbe ou à nouveau en Bosnie, il était à bord d'un véhicule avec deux amis très proches, deux hommes. Leur véhicule a été la cible d'un attentat, les deux autres sont morts. Donc effectivement, lorsqu'on entend dire que William Volman prend tous les risques pour nous ramener du front les informations qui sont les siennes dans le livre des violences, ça n'est pas une figure de style. Mais de la même manière, alors il s'agit d'un risque qui n'est plus physique, mais plutôt intellectuel, lorsque dans la partie historique sur son enquête concernant toutes les formes de violence et surtout les justifications, puisque le véritable objet du livre est non pas de parler de la violence pour parler de la violence, mais d'essayer d'interroger et de s'interroger sur la réponse à travers le temps ou aujourd'hui à travers les différents pays et régions du monde concernés, chacun apporte à la question: est-ce que la violence que vous exercez a vos Volman, c'est de construire ce qu'il appelle, comme d'autres avant lui, un calcul moral, mettant en balance les arguments en faveur du recours à la violence, car il affirme, et comment lui donner tort, que dans bien des cas, le recours à la violence est tout à fait justifié pour se défendre soi-même, pour défendre quelqu'un à côté de soi, pour défendre une cause qu'on estime juste. Évidemment, il y a des causes qui sont plus justes que d'autres, et à ce moment-là, on entre dans tout un ensemble de considérations sur quel est le degré. Une fois qu'on a répondu oui à la première question, oui, le recours à la violence est justifié, dans quelle proportion? Si cette violence doit non seulement faire peur, mais faire des morts, combien de morts est-il possible d'admettre pour soutenir ou défendre telle ou telle cause?
Du coup, voilà, j'aimerais qu'on vienne sur cette nouveauté qu'introduit William.
Je vais peut-être vous demander
de parler plus fort.
De parler un peu plus fort. Je suis loin de votre studio et j'ai quelques difficultés à comprendre la question en cours.
Alors, je vais hausser le ton, je vais hausser la voix. Donc, la principale nouveauté qu'introduit William Wallman, c'est ce calcul moral. Est-ce que vous pouvez approfondir cette question du calcul moral? Comment vous l'avez reçu, le calcul moral?
Alors, écoutez, le calcul moral, selon Wallman, prend une apparence très, très simple. C'est une partie qui représente une bonne centaine de pages, à peu près au milieu du livre, c'est-à-dire à l'intersection de la partie de réflexion et d'études historiques et avant la partie d'enquête de terrain que j'ai évoquée précédemment. Pendant toute la première partie à caractère historique, Wallman présente et commente les justifications qui ont été apportées à l'usage de la violence par les différents personnages historiques, de premier ou de second plan, par les groupes révolutionnaires, par les mouvements de lutte armée, par les factions terroristes, par les maîtres de guerre, par les fascistes comme par les démocrates, tout au long donc des chapitres de cette première partie. Donc il y a un examen, il y a une mise à plat de tous les arguments, il les expose, il les discute. Dans le calcul moral proprement dit, qui est une partie qui sera en quelque sorte, si vous voulez, le guide pratique pour le lecteur du livre des violences, pour savoir quoi penser de tout cela, et éventuellement pour pouvoir à l'avenir tirer même des conclusions par rapport à des situations ultérieures à l'écriture du livre. Donc Wallman synthétise les arguments des uns et des autres, les met en relation les uns avec les autres, et les évalue cette fois-ci. Non pas du point de vue de ceux qui les ont émis, mais du point de vue qui est le sien aujourd'hui et qui peut être celui de son lecteur. C'est aussi l'occasion de préciser que Wallman, malgré l'extraordinaire ambition de son livre, malgré le caractère encyclopédique de sa recherche, n'est pas du tout un auteur ou un enquêteur tyrannique qui chercherait à imposer à ses lecteurs le point de vue qui est le sien, les conclusions auxquelles il est parvenu. Tout au contraire, il met à plat les éléments, il donne un point de vue qu'il présente toujours, non seulement comme subjectif, mais également comme relatif, et je trouve avec un exemple de générosité intellectuelle assez rare, il donne au lecteur tous les arguments nécessaires qui lui permettront de penser différemment de l'auteur. Et c'est aussi l'une des raisons d'être d'ailleurs de la seconde partie, les études de terrain dans tous ces lieux de conflit aujourd'hui sur la planète. C'est là que le talent de Wallman, purement écrivain, purement romancier, prend toute son importance dans le livre, puisqu'il décrit des personnes, il décrit des lieux, il décrit des situations, il décrit des coutumes, il décrit des manières de vivre, il décrit les habitats, il décrit la nourriture, il décrit les forêts, il décrit les rues des grandes villes. Autrement dit, il nous donne tous ces éléments qui sont le génie propre de chaque lieu concerné, autant d'éléments qui ont une importance totalement non quantifiable, mais une importance cependant réelle dans la nature des conflits et des violences qui peuvent s'exercer à tel ou tel endroit. Évidemment, les causes de la violence entre civils, par exemple, ou entre gangs à la Jamaïque et en Thaïlande, présentent des similitudes qui sont extrêmement troublantes. Et on voit bien que ce sont souvent les mêmes causes qui produisent le même type d'effet. Au premier chef, évidemment, la pauvreté. Mais la manière dont cette violence s'exerce, la manière dont cette violence est appelée à durer dans le temps, la manière dont les conflits présentent un caractère plus ou moins inextricable, cela, en revanche, c'est lié à des caractéristiques Volman ne se contente pas d'en penser quelque chose, il donne surtout à ses lecteurs tous les éléments sensibles, émotionnels, physiques presque, pour pouvoir que chacun de nous puisse penser à partir d'eux.
Et j'avais une dernière question, vous m'entendez bien? Allô?
Oui, je vous entends à nouveau assez mal, malheureusement.
Voilà. Ma dernière question, ça serait pourquoi il n'a pas été traduit par Claro?
Oui, alors c'est une question importante et à laquelle il est intéressant de répondre. Claro, effectivement, est connu des lecteurs pour avoir traduit les premiers grands romans publiés en France de William Volman, d'abord aux éditions Christian Bourgois, puis dans un second temps aux éditions Actes Sud et dans sa propre collection, le 49, aux éditions du Cherche-Midi. Le livre des violences est un livre dont on a beaucoup et souvent parlé avec Claro. C'est un livre qu'il était pour sa part hésitant à traduire personnellement, même s'il sait que c'est le livre le plus important et probablement le chef-d'œuvre de l'auteur, car c'est un livre qui, contrairement à la fiction, le domaine dans lequel Claro est à l'aise et dans lequel il s'est exercé concernant Volman jusqu'à présent, là, on est en présence d'un texte qui, en tout cas dans sa première partie, est un texte relevant aussi du domaine des sciences humaines, qui est un texte qui engage un autre type de responsabilité de la part du traducteur. Il y a de nombreuses sources, ces sources, il faut les vérifier, il faut les recouper, il faut faire la part des sources de Volman dans la version originale, traduite ou non traduite en français. Donc c'est un type de travail de traduction qui est assez différent et un type, je signale au passage, de travail éditorial qui est également assez différent. À l'arrivée, c'est bel et bien un livre de Volman dans lequel on retrouve la pensée, l'énergie, le style si particulier de Volman, mais les enjeux sont relativement différents. Et le précédent livre de Volman, Pourquoi êtes-vous pauvre, qu'on peut considérer aussi évidemment comme un essai, et de ce point de vue-là beaucoup plus apparenté à la deuxième partie, donc les études de terrain du livre des violences, immersion dans des régions du monde, immersion dans des populations, immersion dans des problèmes, où là on est évidemment beaucoup plus proche du Volman narratif et descriptif des romans que du Volman penseur et théoricien de la première partie. C'est donc d'un commun accord, Claro, nous-mêmes chez Tristram, et le traducteur Jean-Paul Bourlon, qui a pris en charge cet énorme chantier du livre des violences, que nous avons donc décidé de confier plutôt la traduction à Jean-Paul Bourlon. J'en profite pour préciser que Jean-Paul Bourlon est précisément le traducteur qui, dès la fin des années 80, nous avait alerté Sylvie Martigny et moi-même sur l'apparition de cet incroyable nouvel auteur américain. Et Bourlon, depuis longtemps, voulait traduire Volman. Donc toutes les raisons étaient réunies pour que cette fois-ci ce soit lui, et je dois dire que la traduction donne en français du livre des violences est vraiment très très impressionnante, très époustouflante, à la fois dans la qualité de sa phrase, de son expression, mais également dans l'extrême netteté qu'il donne au texte français.
Merci beaucoup Jean-Hébert Gaillot de bien avoir voulu répondre à mes questions en direct par téléphone. Merci beaucoup, bonne soirée à vous.
Merci.